Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque semaine. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Mehdi Lalaoui.
Bonjour.
Il est l'invité ce dimanche, Mehdi Lalaoui, et nous allons parler du 8 mai 45. Le présenter à nouveau, Mehdi Lalaoui est auteur, réalisateur, il est responsable de l'association Au nom de la mémoire. On lui doit de nombreux documentaires, particulièrement sur justement cette mémoire et cette histoire, parce qu'il est nécessaire de comprendre l'histoire. On lui doit un des premiers documentaires sur le 17 octobre 61, Le silence du fleuve, les massacres de Sétif, viendront la commune et plus près de nous l'histoire de l'immigration en France, les ouvriers de l'usine Renault et bien d'autres encore qui sont la mémoire de l'histoire mais aussi la mémoire sociale et ouvrière. Pour cette émission, ce dimanche matin, je le reçois, nous allons parler du 8 mai 45 et des massacres de Sétif. Et avant d'introduire ce documentaire que vous avez réalisé, Mehdi Lalaoui, on va parler de ce que, il n'aura pas échappé aux auditeurs et auditrices de Beurre FM, que l'année 2002 est le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et que tout au long de cette année 2022, il est question de commémoration et de retenir ce qui est entre la France et l'Algérie, ce que l'on appellera réconciliation, fraternité, que sais-je encore, et d'autres rendez-vous qui ont été pris par le président Emmanuel Macron dans son premier mandat, qui était en cette année 2022 de donner rendez-vous avec l'histoire et leur population, on va le dire comme ça, en tout cas leur groupe mémoriel que sont les appelés, les harkis, les descendants d'Algériens de l'immigration et toutes celles et ceux qui sont un Français sur quatre, chacun le sait, à un rapport avec l'Algérie et voilà, célébrer ces 60 ans, c'est leur donner la parole, l'expression. Le 17 octobre 61 était aussi un rendez-vous important, vous y êtes attaché, Mehdi Lalaoui, avec votre association Au nom de la mémoire, et vous avez été un peu la cheville ouvrière, si je le puis dire, avec d'autres associations, du 17 octobre 61 pour donner ce rendez-vous important lors de la manifestation, ce 17 octobre 2021. Il aura été entendu par le président Emmanuel Macron. Un mot justement sur histoire et politique, Mehdi Lalaoui. Qu'est-ce qu'on attend du politique? Qu'est-ce qu'on attend de cette reconnaissance, de cette réconciliation? Appelons ça comme vous l'entendez. C'est à vous, Mehdi Lalaoui.
Oui, merci de l'invitation. Vous disiez les rendez-vous de l'histoire, mais pour nous, c'est pas seulement le rendez-vous de l'histoire. L'histoire, c'est important pour donner à comprendre, pour former les jeunes générations, pour le plus jamais ça. Aujourd'hui, vous voyez, en avril, mai 2022, il se passe quelque chose de terrible au cœur de l'Europe. L'histoire nous enseigne qu'il s'est passé des choses terribles il y a 80 ans. Des gens disaient plus jamais ça, et pourtant, l'enseignement n'a pas été tiré, et il y a encore la guerre. Les rendez-vous d'histoire, pour nous, c'est pas seulement un moment d'évocation, c'est surtout le moment du rendez-vous ou des rendez-vous de la vérité. C'est vrai pour le 17 octobre 61 sur lequel on se mobilise et on s'est vraiment mobilisé très fortement cette année. C'est vrai pour les massacres de Sétif, Guelma, à Kerata. Ça va être vrai aussi pour rappeler ce qu'ici on appelle la guerre d'Algérie pour le 60e anniversaire de l'indépendance et que nous on appelle nos anciens appelaient la guerre de libération. Parler d'histoire, mais parler aussi de vérité, parce que aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, plus de 60 ans plus tard, il y a des choses qui sont connues, mais la vérité n'est pas établie sur ces événements. On n'est pas des forcenés de l'histoire. Par contre, on est des forcenés de la vérité, parce que la justice aussi passe par pouvoir nommer les choses qui se sont passées au nom de la France, puisque nous sommes des personnes qui vivons ici, hein, nos descendants aussi sont ici. On a besoin de toutes les histoires, que toutes les histoires soient partagées, et que ces rendez-vous d'histoire, pour nous, c'est surtout, je le répète, des rendez-vous de vérité.
Un mot encore sur ce 17 octobre 61 et cette volonté de reconnaissance pour cette 60e commémoration. Il y a eu des mots qui ont été dits par le président Macron. Certains diront que c'était des petits pas, d'autres diront qu'il en fallait plus. Vous aviez une attente, hein, ce collectif 17 octobre 61 avait une attente et puis une détermination plus forte.
Oui, bien sûr, pour nous, et on l'a dit, nous, au nom de la mémoire, qui étions sur le pont de Beson avec le président Macron le 16 octobre, hein, donc la veille du 17 octobre, pont de Beson, où nous avions, en 1991, fixé une première plaque, hein, qui a tenu une semaine sous le pont de Beson pour rappeler cet événement tragique. Pourquoi le pont de Beson ? Parce que Beson jouxte Nanterre, Beson est sur le bord de Seine, et c'est là que dans les jours précédant le 17 octobre, on a vu remonter au fil de l'eau des cadavres d'Algériens qui avaient été balancés à Paris et qui remontaient en aval. Une occasion ratée parce que ce qui a été dit pour ce 60e anniversaire du 17 octobre 1961 a été en deçà de ce qu'un président de la République aurait dit dire. On nous dit que Papon est responsable. Bon, ben on le savait, hein, Papon est responsable. On nous dit que c'est un événement impardonnable. D'accord, un événement impardonnable. Mais on fait abstraction du fait que Papon, préfet de police de Paris, n'était pas tout seul, que c'est la police parisienne qui a été responsable dans son ensemble de ça, que Papon n'a pas pu agir tout seul sans l'aval du gouvernement, Roger Frey et même du général de Gaulle. C'est impensable que dans une république, un ministre de l'Intérieur, un Premier ministre comme Michel Debré, comme Roger Frey, ministre de l'Intérieur, puisse faire les choses tout seul. C'est une occasion ratée parce que 60 ans plus tard, puisque ça s'est passé il y a quelques mois, nous disons au nom de la mémoire qu'on peut, dans ce pays, massacrer des dizaines, peut-être des centaines de personnes au cœur de la capitale et n'avoir aucun coupable. Voilà. Pour nous, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà. On réveillera pas les gens qui ont été assassinés. On ne demande pas à la République française de se mettre à genoux et demander pardon. On demande, et je reviens sur les rendez-vous de l'histoire qui doivent être des rendez-vous de vérité comme on a fait en octobre et comme on fera aussi pour le 60e anniversaire de la fin de la guerre de libération, on demande la vérité. Parce que c'est ça la première des justices.
Ça veut dire que le 17 octobre prochain, on retrouvera ce collectif 17 octobre 61 pour toujours cette exigence de vérité.
Mais tant que la vérité est flottante, on la connaît la vérité, les citoyens maintenant la connaissent. On cite souvent notre ami, paix à son âme, Jean-Luc Kennedy, qui a fait un travail remarquable, Jim House, les Anglais qui ont fait des travaux remarquables, qui étaient là à notre colloque international qu'on a tenu au Sénat pour ce 60e anniversaire. La vérité établie, et tous les mois, tous les ans, on a des gens qui écrivent, on a des nouveautés le moins.
Et il y a des nouveautés aussi dans l'affaire du 17 octobre 61.
Oui, parce que chaque
parce
fois
que
qu'on rencontre
les anciens nous quittent, les anciens mais leurs descendants ont reçu l'histoire de leurs parents.
Certains, oui, certains depuis une quinzaine d'années, il y a une transmission. Et encore aujourd'hui, je pense à Madame Jamila Amran, qu'on n'avait pas enregistrée il y a quelques années, qui nous donne des témoignages. Je pense à
84 ans aujourd'hui,
voilà, toujours qui accompagne au nom de la mémoire dans les lycées pour témoigner auprès des jeunes de cet événement important, qui est une femme magnifique. Je pense Monsieur Bourras, je crois qu'il s'appelait Monsieur Bourras, qui est un enfant qu'on voit dans un journal du 18-19 octobre, enfant qui se souvient. Voilà, il y a des gens qui partent, mais cette histoire ne pourra pas être effacée parce que c'est vrai que depuis une dizaine d'années, elle a été portée, transmise, et nous on continue à la porter. Hein. J'espère qu'on partira pas trop vite. Pour continuer à transmettre, mais j'espère surtout que notre combat aboutira sur la reconnaissance de la vérité, parce que c'est épuisant, on a d'autres choses à faire, à construire. Hein. On dit toujours que ce combat pour la vérité, c'est notre combat pour la justice, c'est notre combat pour la fraternité,
voilà. Et pour la dignité,
voilà. Et pour la dignité de nos parents, même s'ils sont plus là, de nous, de nos descendants et de tous les citoyens de ce pays.
Parce que cette histoire,
absolument, cette histoire, c'est pas une affaire d'Algérien, c'est pas seulement une affaire d'Algérien ou de Franco-Algérien. Et on l'a vu pour ce 60e anniversaire, hein. On a vu des collectifs qui se sont créés un petit peu partout pour porter ce message de justice du 7 octobre. Et c'était pas des Algériens ou des Franco-Algériens, hein. C'était des Français-Français, hein, comme on dit. Hein. Et c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde s'approprie une histoire parce que il en est de la justice, et la justice n'a pas de frontières.
L'histoire, c'est la vérité, c'est ce que nous dit avec détermination Mehdi Lalaoui. Il est l'invité de Se Voix au chapitre ce dimanche matin, et nous parlons d'histoire et mémoire, et nous allons évoquer dans une deuxième partie de notre rendez-vous ce matin, le 8 mai 45. On se retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons notre voix au chapitre ce dimanche matin. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Mehdi Lalaoui. Nous parlons d'histoire. Il est auteur, documentariste, et il a réalisé un documentaire, Les massacres de Sétif, 8 mai 45. Le 8 mai 45, évidemment, se commémore pour se souvenir que c'était une victoire contre les nazis, mais on oublie trop souvent, c'est une occultation, de parler des massacres de Sétif, Galma Kerata. Mehdi Lalaoui, vous avez réalisé, vous, un documentaire sur le 8 mai 45.
Oui, alors, ce documentaire, le titre exact, c'est Les massacres de Sétif, un certain 8 mai 1945.
C'est rappeler l'occultation.
C'est rappeler l'occultation, parce que cette histoire terrible est concomitante avec cette libération mondiale, cette victoire contre le nazisme, comme vous disiez. Ce 8 mai, tout le monde a la tête sur l'après, sur la victoire contre le nazisme, sur la liberté, sur toutes les horreurs qui sont passés, qui sont derrière, et sur l'espoir des jours heureux, d'une vie nouvelle, de la démocratie, de la libération des peuples. Et ce 8 mai 45 en Algérie est le début d'un massacre qui ne dit pas son nom, qui a été aussi documenté depuis de nombreuses années. Et ce massacre va durer jusqu'à la fin du mois de juin. Hein. On dit toujours par restriction le 8 mai 45, mais c'est pas seulement le 8 mai, hein, ça va durer jusqu'à la fin du mois de juin.
Le déclenchement va s'opérer le 8 mai
45. C'est le 8 mai 45 pour la manifestation, pour célébrer la victoire. Parce que la manifestation qui va être attaquée par les colons et les policiers de Sétif, c'est une manifestation avec des enfants devant, des jeunes scouts devant, une manifestation pacifique, encore une fois, qui est attaquée à coups de pistolets et de fusils par les policiers et par les colons de la ville.
Et justement ce jour-là, l'histoire se souvient bien qu'un jeune scout va être le premier qui va être tué lors de cette manifestation.
Voilà.
D'autres vont suivre, évidemment.
Oui, bien sûr. Le premier qui est tué, ça s'appelle Sahal Bouzid. Et Sahal Bouzid, il est tué parce que il porte le drapeau algérien. Il existe déjà, hein, le drapeau algérien en 1945. Et pour les colons et pour les policiers, pour les extrêmes, c'est insupportable pour eux. Et c'est lui qui va être tué le premier. Et d'autres vont être tués dans cette fusillade à sens unique, parce que les premiers coups de feu des premières minutes, ce sont les colons et les policiers. Hein, voilà, les gens, ils sont désarmés quand voilà. Et cette manifestation va virer à l'émeute et très rapidement, les gens vont s'en prendre aux Européens. Et encore une fois, par rapport aux crimes coloniaux, on connaît le nombre d'Européens tués. Voilà, au cours de ces journées-là, il y a 103 Européens qui ont été tués. On connaît leur nom, leur prénom, leur date de naissance. Mais aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, on ne connaît toujours pas, comme tous les crimes coloniaux, hein, comme Madagascar, comme Octobre, comme on ne connaît pas le nombre exact d'Algériens qui ont été massacrés en mai-juin 1945 en Algérie.
Et dans cette, on connaît pas, mais on,
j'ai lu, il y a des estimations,
dans des, oui, voilà, ouais, il y a des estimations. Ouais, ouais. Hein. On parle de 300 à 30 000 morts. Évidemment, on est plus près des 30 000 morts que des 300, oui, j'imagine, oui. Selon les.
Oui,
les
oui, 300, c'est pas crédible, hein. Voilà, à 300, c'est pas crédible. Les Américains et les services britanniques parlent d'au moins 15 000 morts. Hein. Voilà, les Américains et les Britanniques étaient encore en Algérie, puisque ils arrivent en Algérie en novembre 1942, il débarque en Algérie en novembre 1942, et à la fin de la guerre, c'est-à-dire en mai 45, ils sont encore en Algérie, donc ils sont des observateurs de ce qui se passe, ce qu'est capable la France coloniale et les milices coloniales à l'époque. Eux, ils parlent de 15 000. Les Algériens parleront de 45 000. Quoi qu'il en soit, que ça soit 15 000 ou 16 000 ou plus, ça a été un massacre, ça a été un crime contre l'humanité, parce que on a assassiné des gens de façon indistincte. Hein, on a bombardé des villages, voilà, par l'aviation, par la marine de guerre, hein, qui était dans la baie. Et ça, il a fallu des années pour que on puisse, en France ou en Europe, avoir connaissance pour le grand public de cet événement. Les historiens le savent. Si, 9 ans plus tard, après mai-juin 45, il y a l'insurrection...
C'est le déclenchement de la guerre de libération.
C'est parce que 1945 marque ce fossé de la... un fossé irréconciliable, parce que ceux
entre
qui
les Européens, voilà, et les indigènes,
oui,
ceux qu'on appelle les indigènes
nos parents de l'époque, et 9 ans plus tard c'est l'insurrection, parce que on se rend compte que c'est pas possible autrement que par les armes de chasser le colonialisme de sa terre, de la terre algérienne, quoi. Et c'est ce qui va se passer 9 ans plus tard. L'insurrection de novembre 54 ne tombe pas du ciel. C'est une conséquence, c'est une leçon directe de ce massacre de Sétif qui a massacré des milliers de personnes de façon indistincte.
Alors votre documentaire, Mehdi Lalaoui, 8 mai 45, un certain 8 mai 45, vous avez des images d'archives et vous avez à l'époque encore des témoins de cette terrible, de ce terrible massacre.
Oui, et là aussi, le temps n'est pas notre allié. Par contre, la caméra, c'est cet outil qui fait le son et l'image, est notre allié pour préserver cette mémoire. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le film Les Massacres de Sétif, que j'ai fait en 95, ils ont disparu.
Ils sont plus là.
Voilà, ils ont disparu.
Leurs descendants sont là.
Voilà, leurs descendants sont là. Mais c'est toujours important d'avoir pu filmer, et ça, c'est indispensable. C'est quelque chose d'incroyable. Des gens qui disent, j'étais dans cette rue, j'ai vu ça, j'ai été blessé, mon frère a été tué. Des gens qui parlent à la première personne, qui sont des témoins directs. Voilà. Parce que les descendants, ils vont dire, ma mère, ma famille, mon père. Voilà, voilà. Mais rien ne vaut un témoignage direct, parce que Nous, dans 50 ans, on sera certainement plus là. Mais nos témoignages, ces visages-là, ces paroles-là, on peut encore les voir, on peut encore les entendre. On ne pourra pas nous dire 50 ans plus tard que ça n'a pas existé. Comme ça s'est passé pour la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle les révisionnistes. Hein, ils disent, les chambres à gaz, ça n'a pas existé, la déportation, ça n'a pas existé. Il y a des témoins directs qui ont été marqués dans leur chair et dont on a pu collecter le témoignage sur les lieux mêmes des massacres.
Vous avez collecté des témoignages, mais vous avez aussi retrouvé des archives, non ? Dans
oui,
votre documentaire,
oui, oui.
C'est important aussi. Ben, dans une dernière partie, on parlera justement de l'avenir. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture des archives ? Ouais. Mais vous aviez déjà des archives dans votre documentaire ?
Oui, bien sûr, parce que dans un travail de documentariste, il nous faut bien entendu des témoignages oraux, verbaux, même s'il faut recouper, parce que des fois, des gens reconstruisent. Les gens, ils pensent que ça s'est passé cette semaine, alors que ça s'est passé la semaine d'après. Des gens pensent que c'était telle personne, alors que c'était une autre. Voilà. Mais il faut recouper les témoignages oraux systématiquement avec tout ce qu'on peut retrouver comme documents militaires. Documents d'archives, documents de déplacement de troupes, compte rendu de régiments, etc. Et ça aussi, c'est assez incroyable parce que depuis 1995, donc j'ai fait ce film en 1995, il ne se passe pas une ou deux années sans que quelqu'un m'envoie des chercheurs, des jeunes étudiants qui travaillent sur un tout autre sujet. Ils découvrent un document d'un ordre de marche. Voilà, un militaire de Sétif à Kerata ou un ordre de bombardement de l'aviation, etc. Quelque chose qui n'a rien à voir avec leurs travaux. Et ils me l'envoient parce qu'ils disent, tiens, peut-être que ça peut vous intéresser. Ou quelqu'un qui dit, bah, mon père, il est décédé ou mon grand-père, il est décédé. Et voilà ce qu'on a trouvé. Il parle des massacres du Constantinois. Et donc, il se passe pas une année, deux années sans que on ne reçoive, comme pour le 17 octobre 61, des petits morceaux d'informations, de polls, etc. Tout ça, c'est très précieux. Parce que nous, on n'en a pas connaissance. Ce sont des gens qui ont connaissance de notre travail qui nous envoient des choses. Des fois, il y a des choses très, très, très poignantes. En disant, ben voilà, mon grand-père, il s'appelait Alain, on n'a plus de traces, est-ce que vous pouvez remonter, est-ce que vous avez une liste, est-ce que, voilà, nous, on est de la famille Intel, on cherche toujours la trace de nos deux grands-oncles qui ont disparu. Il y a des choses terribles. Plus de 80 ans plus tard.
Mmh. On vous retrouve dans un instant, Mehdi Lanaoui. Je rappelle que nous évoquons le 8 mai 45.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons notre rendez-vous de Voix au chapitre ce dimanche matin. Je rappelle que je reçois Mehdi Lanaoui et nous évoquons l'histoire et le jour l'impose, le 8 mai 45 et particulièrement les massacres de Sétif, Guelma, Kerata. Et tout au long de ce rendez-vous, Mehdi Lanaoui nous rappelle bien cette nécessité de vérité justement sur ce que fut le massacre de Sétif, comme il en était question pour le 17 octobre 61, auquel il était également attaché et engagé. Peut-être se dire, Mehdi Lanaoui, si vous le voulez bien, que parler de vérité, c'est aussi enseigner le 8 mai 45 avec ces massacres du Sétif dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, un travail d'éducation est nécessaire ?
Oui, bien sûr, un travail d'éducation est nécessaire. Et ça a commencé d'ailleurs. Hein. Il y a dans les manuels scolaires référence à Sétif, référence aux guerres coloniales. Bon, c'est pas suffisant, mais il faut que ça avance, et ça avance. Et aujourd'hui, en France, il y a énormément d'enseignants qui traitent pas seulement des massacres coloniaux, mais de l'histoire coloniale. Il faut que dans notre pays, ces histoires-là soient portées, soient connues. Nous, à Nom de la Mémoire, on a initié l'histoire coloniale des rencontres avec les lycéens, et ces rencontres avec les lycéens ne peuvent se faire que si des enseignants nous invitent, nous préparent le terrain, parce que c'est pas facile.
À cette question.
Parce qu'on parle de meurtre de Mars, donc les jeunes en construction, en formation, faut les préparer. Hein. En plus, ce sont des jeunes de nos sociétés qui sont très métissées, donc faut pas qu'il y ait un sentiment de haine ou d'incompréhension ou de revanche ou voilà, c'est délicat, mais beaucoup d'enseignants se sont mis à investir ce champ de connaissances en le préparant. Et c'est toujours très important parce que l'histoire, elle ne peut pas être séquencée. Elle est entière, l'histoire. On peut pas tout connaître, mais ces événements qui sont importants et qui fondent aussi notre rapport à l'autre et notre rapport à la présence aussi de nos communautés africaines, maghrébines et autres dans ce pays, est quelque chose d'important.
C'est important, on en déplaise à certains, justement, puisque quand on est aussi dans une société où la montée des extrêmes, de l'extrême droite, pour la nommer, paraît justement, et on stigmatise effectivement ces communautés, il est important de mettre à équité, en tout cas, l'histoire commune. Juste encore un mot sur ce 8 mai 45, un rassemblement qui va se faire comme un collectif a l'habitude de le faire et de donner rendez-vous justement pour que soit visible justement cette démonstration que le 8 mai 45 c'était aussi le massacre de Sétif. Juste rappeler peut-être que des élus de la République, hein, chaque année on en voit apparaître et qui lors de la commémoration officielle se prennent à parler du 8 mai 45 et des massacres de Sétif. Je crois que c'est important de souligner aussi.
Oui, parce que c'est rentré dans le champ démocratique, hein, le 8 mai 45, dans plus en plus de villes de France, dans toutes les villes de France, de toute façon, il y a la célébration de la victoire contre le nazisme. Mais beaucoup d'élus, effectivement, évoquent
il y a le discours officiel.
Voilà, évoque le fait que ceux qui se sont battus aussi contre le nazisme, les peuples coloniaux et les Algériens en particulier, n'ont pas eu justice par rapport à ces massacres qui étaient consécutifs à leur revendication de liberté. Ce qui est important aussi, c'est que moi, je pense que c'est quelque chose d'important dans la société française. Quand on investit l'espace public, ce qui est important, c'est que dans un certain nombre de villes, alors il y a Rennes, bien sûr, mais Rennes, c'est un tout petit peu normal, parce que Rennes
est une ville jumelée avec Sétif,
voilà,
longtemps,
vous connaissez bien, voilà. Et donc, ça fait longtemps qu'ils font une cérémonie à Rennes sur les massacres de Sétif. Mais maintenant, depuis quelques années, à Marseille, à Givors, dans un certain nombre d'endroits, à Grenoble, à Strasbourg, dans un certain nombre d'endroits, on acte aussi la victoire contre le nazisme, mais aussi cette terrible séquence du massacre des Algériens dans le Constantinois en 1945.
Voilà pour toute cette séquence autour de la commémoration du 8 mai 45, sur lequel vous êtes infatigable, Mehdi Lalaoui, comme sur d'autres pages d'histoire, je l'ai rappelé, le 17 octobre 61 et bien d'autres. Il est une page importante que vous avez menée depuis quelques années déjà. C'est une rencontre autour de la vie d'un homme célèbre pour l'Algérie et célèbre universellement, j'allais presque dire. C'est celle de Frantz Fanon. Vous venez de réaliser un documentaire sur Frantz Fanon. Parlez-nous de lui.
Ben, Frantz Fanon, c'est quelqu'un qui a épousé la cause du combat des Algériens.
Et des indépendances en général.
Ouais, et de tous les opprimés. Hein. Frantz Fanon, c'est un personnage dont on fêtait. Là c'est l'année des 60e anniversaire. Il est mort en décembre 61, donc on célébrait sa disparition en décembre 61. Il n'avait que 36 ans. Il avait que 36 ans et cet homme a eu plusieurs vies. Voilà, descendant d'esclaves, martiniquais, psychiatre, un des rédacteurs de El Moudjahid, hein, qui était à Tunis, soignant à l'hôpital de Blida des maquisards, là où il y a quatre. Voilà. un penseur du tiers-monde, un penseur de l'Afrique, un penseur du colonisé et du colonisateur à travers des ouvrages comme Peau noire, masque blanc, ce qui va le révéler, l'enceinte de la révolution algérienne, et enfin son ouvrage qui termine avant de mourir dans l'épuisement, Les damnés de la terre. Et Fanon, c'est un personnage dont on parle encore, parce que quand on voit ces dernières années les manifestations, les grosses mobilisations antiracistes aux États-Unis après l'assassinat de George Floyd, on voit dans les manifestations des portraits de Frantz Fanon et des gens se disent mais c'est qui ça? C'est un Américain, un jeune Afro-Américain qui a été assassiné? Non, c'est Frantz Fanon, parce que Frantz Fanon nous rappelle la nécessité de nous battre, nous rappelle la nécessité de nous lever, nous rappelle que un humain vaut un humain, qu'il soit jaune, noir ou vert ou bleu. Un humain, c'est un humain, et que on ne peut pas, parce qu'on a un sentiment de domination, de supériorité enseignée depuis des siècles et des siècles, considérer la vie d'un autre parce qu'il est noir inférieur à celle de tous les autres. Fanon nous enseigne ça, nous enseigne un mécanisme, parce que c'est un psychiatre, les mécanismes intimes dominants, dominés, quoi. Et Fanon est vraiment d'actualité. Moi, j'ai lu Fanon à l'âge de 20 ans. Je pensais de façon prétentieuse avoir compris un tiers, mais c'est pas vrai. J'ai relu Fanon en travaillant sur ce film sur les traces de Frantz Fanon que j'ai fait grâce à deux femmes merveilleuses qui sont Alice Cherki, psychiatre à Paris, une grande dame, une belle personne, une combattante toujours, et Marie-Jeanne Manuelin, qui nous a quittés au mois d'août dernier et qui ont accompagné Fanon dans ses combats, tant en Algérie, à Blida, qu'à Tunis, à l'hôpital Nichols. Voilà, ce film n'est pas encore connu, il n'est pas passé à la télévision française.
Mais j'espère encore qu'on aura l'occasion de le voir bientôt.
On va avoir l'occasion de le voir bientôt. Paradoxalement, il va passer à Londres, à Cambridge, à Berlin, à Zurich, dans un certain nombre d'articles.
Comment expliquer que c'est toujours ailleurs que l'histoire se passe?
Je sais pas.
Il faudrait faire un documentaire là-dessus.
Là aussi, peut-être que c'est...
On en parle ailleurs, et ici, on a du mal à parler de cette histoire.
Peut-être qu'on parle de Fanon, mais peut-être c'est une question de psychanalyse.
Voilà.
C'est les autres qui parlent de nos histoires hexagonales, alors que nos histoires hexagonales devraient nous concerner, nous avant tout, quoi. Mais bon, les documentaristes, les écrivains, les artistes, les porteurs de mémoire en général, n'attendent pas le feu vert pour faire vivre des personnages, revivre des personnages. Ce que je voudrais dire aussi pour inciter à revenir sur Fanon, c'est que moi j'ai redécouvert, parce que à 20 ans je l'avais pas vu ça, c'est que Fanon c'est un grand poète, c'est-à-dire que quand il écrit sur El Midjahid ou des textes politiques, ou quand il analyse des cas de ses patients, il a toujours une langue magnifique, une langue très poétique, très métaphorique. C'est un admirateur de Césaire, hein. Il connaissait le texte Batouk de Césaire par cœur. Voilà. Redécouvrir Fanon, c'est aussi, pas redécouvrir un engagement, c'est aussi redécouvrir un poète.
Un poète, Frantz Fanon. Je rappelle qu'en Algérie, on lui doit son nom. L'hôpital psychiatrique de Blida porte son nom. Il y a un grand boulevard algérien qui s'appelle le boulevard Frantz Fanon, et que Frantz Fanon est inoubliable pour les Algériens et les Algériennes, et pour l'universel en général. Merci, Mehdi Lalaoui, d'être venu ce dimanche matin nous parler longuement des massacres de Sétif du 8 mai 45. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Voix au chapitre sur Beurre FM.